Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après une nuit en altitude, Emmanuel Macron visitera ce matin la mer de glace sur le Mont Blanc. Il souhaite y promouvoir le virage écologique annoncé pour la suite du quinquennat. Analyse critique de cette séquence politique à suivre. Nous vous présenterons ensuite les enjeux d'une réunion à Matignon. Réunion ce matin sur les fins de carrière et la pénibilité, à l'heure où le gouvernement réforme le système des retraites. Dans ce journal aussi, nous irons en Iran, où débute la campagne électorale pour les législatives. Et puis au Brésil, après que le pape François a refusé l'ordination d'hommes mariés en Amazonie. Emmanuel Macron est donc en Haute-Savoie pour un déplacement sur le thème de l'environnement, thème qui, selon lui, marquera la seconde partie de son quinquennat dans la perspective de la présidentielle en 2022. Il se rendra tout à l'heure à 8h au bord de la mer de glace sur le Mont Blanc pour se rendre compte des effets du réchauffement climatique et de la dégradation du massif due à la fréquentation touristique. Le chef de l'État annoncera dans la foulée un certain nombre de mesures en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Mais cela sera-t-il réellement un signe du changement de la politique d'Emmanuel Macron? Vraisemblablement pas, répond le politologue Simon Persico, enseignant à Sciences Po Grenoble, spécialiste des questions d'environnement. Depuis 2 ans et demi, dit-il, le discours d'Emmanuel Macron est en décalage avec ses actes.
Ce déplacement d'Emmanuel Macron, il s'inscrit un peu dans la ligne de ce que fait le président de la République en matière d'environnement, c'est-à-dire de communiquer beaucoup, proprement, sur ces enjeux. Après, je n'ai pas l'impression que ça s'accompagne de transformations radicales dans la manière de mener les politiques environnementales en France. La difficulté, c'est que les effets d'une politique de transition assez forte et vigoureuse seraient sans doute un peu douloureux pour un certain nombre de secteurs économiques, pour un certain nombre de secteurs d'emploi. Et c'est en ça qu'il y a vraiment une réflexion très importante à mener sur quelles sont les compensations, quelles sont les manières de redistribuer en fait les richesses qui accompagnent les politiques de transition. Mais il y a quand même toute une série de travaux qui indiquent le chemin qu'il faudrait suivre, sur lesquels Emmanuel Macron s'appuie pas forcément en priorité, puisqu'il est encore dans une logique portée par les élites de l'État et même les élites des grandes entreprises françaises, une logique de développement basée essentiellement sur le critère économique comme seule valeur. Et ça implique du coup ce décalage en fait en matière de pensée de politique publique que pour l'instant il est vraisemblablement pas prêt à le faire.
C'était le politologue Simon Persico interrogé par Stéphane Robert. Pendant que le chef de l'exécutif parlera ce matin environnement, son binôme, le Premier ministre, gérera le dossier retraite. Édouard Philippe recevra tout à l'heure les partenaires sociaux à Matignon pour évoquer les fins de carrière et la pénibilité. La réunion va revenir sur les 4 grands thèmes de discussion entamés en décembre, Catherine Pétillon.
D'abord, le minimum de pension, 1 euros en 2022, puis 85% du SMIC en 2025. Voilà ce que prévoit le projet de loi. Les syndicats, eux, veulent accélérer ce calendrier et surtout relever le montant. On attend aussi des réponses sur l'élargissement de la retraite progressive, un dispositif aujourd'hui peu développé qui permet de travailler à temps partiel et de toucher une partie de sa pension. Reste à savoir dans quelles conditions et à partir de quel âge. Troisième enjeu, les transitions entre l'actuel et le futur système. Autrement dit, que deviendront les droits à la retraite acquis dans les règles actuelles? Mais le gros dossier, c'est celui de la prise en compte de la pénibilité. On sait déjà que le gouvernement ne veut pas réintégrer les 4 critères dont le port de charges lourdes et le risque chimique qu'il a retiré en 2017 du compte pénibilité, c'est ce que demandait la CFDT. Cela pourrait finalement prendre la forme d'une liste de métiers jugés pénibles par les branches, ouvrant droit à des dispositifs de reconversion ou d'aménagement de carrière, voire à un départ anticipé à la retraite. Pour Frédéric Seff de la CFDT, les annonces seront déterminantes pour la suite, à savoir la conférence de financement de la semaine prochaine.
On est nettement moins motivé à discuter du financement selon que le système est juste ou injuste. S'il n'y a aucun droit nouveau dans le système de retraite, ce sera difficile de demander aux Français d'éventuels efforts pour le financer.
S'il est peu probable que le Premier ministre dévoile aujourd'hui l'ensemble de ces arbitrages, cela devrait au moins donner une tendance.
Mais combien tout cela va-t-il coûter? Malgré l'appel d'Emmanuel Macron à défendre la réforme des retraites avant-hier, la polémique continue jusqu'au sein de la majorité puisque 2 piliers de la commission des finances à l'Assemblée interrogent l'exécutif sur l'impact budgétaire de cette réforme. Les 2 députés ont écrit au Premier ministre pour l'interroger sur les impacts justement de la réforme des retraites. C'était le dernier de ces procès pour fraude et pour blanchiment et le dernier jour de prison pour Patrick Balkany hier.
La Cour d'appel de Paris a libéré l'élu malade après de fréquents séjours à l'hôpital. Il était incarcéré depuis le 13 septembre. La justice rendra ses décisions en appel dans les affaires qui impliquent le couple Balkany les 4 mars et 22 avril. Le nombre de décès bondit en Chine orientale. Les autorités comptent maintenant plus de 1350 morts, dont 242 rien qu'hier. Cette nuit, dans la province chinoise du Hubei, berceau de l'épidémie, le numéro 1 régional a été démis de ses fonctions par le pouvoir central. Idem pour le responsable de la ville de Wuhan. 3 millions de civils sont pris au piège en ce moment dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Parmi eux, près de 700 000 personnes ont pris la route. Elles s'entassent le long de la frontière turque qui leur est fermée. La peur s'installe face au bombardement du régime et de son allié russe, bombardement quasi quotidien. Le pire est à prévoir, selon le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui s'est déjà rendu 29 fois en Syrie et qui dénonce ses morts en silence.
C'est insupportable. À la fois une colère très très profonde, une colère d'indignation qui est profonde devant le massacre de cette population que l'on a conduit et que l'on a trompé en faisant croire que la zone de Idlib serait une zone de désescalade de la violence où ils pourraient venir se réfugier. Au fond, depuis 9 ans, on a accepté le massacre d'Alep, on a accepté le massacre de la Ghouta avec l'utilisation du chimique, on a accepté le massacre de Deraa. Donc globalement maintenant un massacre de plus, il suffit de regarder ailleurs encore quelques semaines et puis de dire ben, « la guerre en Syrie est terminée ». C'est vraiment un déni d'humanité.
Des propos recueillis par Omar Waman. Et dans les enjeux internationaux, nous nous pencherons à 6h45 sur le pacte russo-turc ébranlé par cette offensive syrienne. Colère des Israéliens, satisfaction des Palestiniens. Hier, en fin de journée, le bureau de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a publié le nom de 112 sociétés qui ont des activités économiques dans les colonies israéliennes. De Airbnb à Alstom, la mesure est surtout symbolique. Partons maintenant en Iran où débute la campagne pour les législatives, des élections qui sont prévues le 21 février prochain, c'est-à-dire dans une grosse semaine. Et si l'on en croit nombre d'analystes iraniens, elles pourraient, ces élections, être un échec pour l'alliance formée autour du président Hassan Rouhani. Alliance portée par les modérés et les réformateurs, ils sont en difficulté, Valérie Crova.
Il est des signes qui ne trompent pas. Le Conseil des gardiens de la Constitution, organe chargé de la validation des candidatures aux législatives et dominé par les ultra-conservateurs, avait retoqué début février près de 10 000 candidats, pour l'essentiel réformateurs. S'ils ont la possibilité de faire appel de l'invalidation de leur candidature, le temps est désormais compté avant le scrutin prévu dans 9 jours, de quoi fausser la campagne qui démarre aujourd'hui. Fin janvier, le président iranien est monté au créneau, affaibli sur la scène intérieure. Hassan Rouhani a évoqué les menaces qui pèsent sur la démocratie iranienne. Les Iraniens ont le droit de choisir entre les différentes tendances, a-t-il redit il y a quelques jours lors d'un discours au mausolée de l'imam Khomeini. Hassan Rouhani ne cesse d'appeler ses concitoyens à aller voter, même s'ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Le clivage est de plus en plus marqué entre d'un côté les plus radicaux qui jouent la carte islamiste, de l'autre les réformateurs montrés du doigt après l'échec de la politique d'ouverture conduite par le président Rouhani et qui n'a pas abouti à la levée des sanctions. La population iranienne, en particulier les jeunes, en paye le prix. Iront-ils voter la semaine prochaine et pour qui? On sait que l'abstention joue traditionnellement en faveur du camp conservateur.
Le pape François ne retient pas l'idée de prêtres mariés dans les zones reculées de l'Amazonie. La région le demandait pour remédier à une pénurie de prêtres. Les évêques avaient même donné leur accord de principe à l'automne. Mais le pape a douché les espoirs des progressistes, Anne Vigna.
Permettre à des hommes mariés de devenir prêtres pour pallier le manque d'ecclésiastiques dans la région amazonienne était la proposition la plus audacieuse du synode pour l'Amazonie. Cette réunion exceptionnelle pendant 3 semaines en octobre dernier avait mis en lumière que certaines communautés doivent attendre jusqu'à 1 an pour pouvoir assister à une messe. Le recours à des femmes diacres avait été aussi proposé. Mais dans son exhortation apostolique post-synodale rendue publique hier, le pape n'en appelle qu'aux missionnaires missionnaires pour faire face à l'hémorragie de vocation. Rien d'innovant donc sur ce chapitre et une solution peu réaliste si on en croit les conclusions du synode qui soulignait justement la disparition quasi générale des missionnaires. Ce document papal intitulé « Chère Amazonie » reprend pourtant plusieurs points chers aux progressistes. Il invite les prêtres à incorporer certains rites indigènes dans la liturgie catholique. Le pape dit aussi clairement que la destruction de la grande forêt est un crime, tout comme les attaques sur les territoires indigènes. Une vision totalement opposée donc à celle du président brésilien, avec qui une partie de l'église catholique brésilienne s'est pourtant alliée, malgré l'avis contraire du Vatican.
La météo, à présent en France métropolitaine, elle sera pluvieuse sur l'ensemble du pays. Pour les températures comptées 6 degrés à Lille et Lyon, 9 à Paris, 12 degrés ce matin à Nice.